Salut à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce deuxième podcast de notre série Bilan Unchained, enregistré à Neuchâtel. Donc, ville bien connue pour abriter les cypherpunk, les maximalistes de l'écosystème roman. On va décrypter ensemble l'un des projets qui a eu le plus de retentissement cette année, au niveau mondial même, et lancé à Neuchâtel. Je veux bien sûr parler de Nîmes, qui n'ambitionne pas moins que de contrer la surveillance d'Internet. On va y venir. Donc, Joanne Planquette, journaliste crypto pour Bilan. Je suis accompagné de notre expert bilan, la star Twitter Swiss Crypto Cat. Salut Cat, ça va bien?
Salut tout le monde, ça va?
Content d'être à Neuchâtel?
Au top, j'adore être dans la Verify Valley.
Ah oui, une communauté dans laquelle on se sent bien. Donc pour parler de Nîmes, qui de mieux que son fondateur, Alexis Roussel. Salut Alexis, merci de nous accueillir.
Salut, je suis très content de vous avoir ici.
Ok, bah tant mieux. Bah Alexis, qu'on ne présente plus, mais enfin bon, on va quand même dire quelques mots peut-être. Donc Alexis, pionnier du Bitcoin en Suisse, fondateur de l'exchange BT, et puis une personnalité surtout engagée sur les questions de souveraineté et d'intégrité numérique. Donc Alexis, tu as été sous le feu des projecteurs en lançant Nîmes cette année, donc un projet qui a déjà levé 20 millions, un projet qui a été rejoint par de grands noms comme Chelsea Manning, donc ancienne analyste de l'armée américaine, pour rappel, qui a été emprisonnée pour avoir fourni des documents secrets défense à Wikileaks, donc une personnalité quand même célèbre et sulfureuse. Donc Nîmes, plus qu'une solution technique, un projet politique visant à rendre inobservables les interactions sur Internet. Alexis, en quelques mots, alors comment se passe ce lancement très médiatisé? Comment tu gères le quotidien avec ton équipe?
Alors ça se passe super bien. Alors moi, je travaille en binôme avec, enfin en trinôme avec toute l'équipe dirigeante. Il y a Harry qui est le CEO, qui est vraiment le porteur de projet depuis très longtemps. Moi, je m'occupe de tout ce qui est juridique, administratif, et puis aussi gestion de la société au quotidien. Et puis il y a Dave, le CTO, et Claudia qui est le professeur à l'université de KU Leuven et qui est vraiment le cerveau qui a construit en fait finalement ce réseau qui fournit de l'anonymisation en fait de la communication.
D'accord, alors c'est intéressant. Aujourd'hui, quand on s'y revient, la genèse de Nîmes, qu'est-ce qui a motivé ce projet? Comment a-t-il été préparé?
Alors, ce projet, il date de très longtemps. C'est-à-dire que d'abord, il y a une technologie qui existe, qui s'appelle le Mixnet. Cette technologie, elle n'a jamais été faite. Elle a été conceptualisée dans les années 80 par David Chaume. Et l'idée, c'était effectivement de mélanger les données pour qu'on ne puisse plus arriver à observer quoi que ce soit et qu'on crée de l'anonymat. Et en fait, entre-temps, il y a Tor qui est apparu, qui a été un gros projet de protection de vie privée avec un réseau. Ces dernières années, en 2018, l'Union européenne a commencé à financer un projet qui s'appelait Panoramix, qui était donc poussé par Harry pour faire un mixnet. Et ce qui a vraiment changé la donne, c'est l'apparition de finalement cette crypto-économie où maintenant, tu peux développer des ressources, tu peux créer un projet, lever des fonds, créer une économie, un écosystème entier qui a du sens d'un point de vue économique. Donc, tu peux avoir une entreprise qui vend ses services de protection de vie privée au juste prix, en fait.
Comment on convainc une personnalité comme Chelsea Manning, qu'on est une start-up neuchâteloise, de venir rejoindre un tel projet?
Je pense que c'était au bon moment pour elle, parce que voilà, elle a été pardonnée il n'y a pas trop trop longtemps, et donc maintenant elle se retrouvait à devoir faire ses prochaines expériences professionnelles, à trouver la suite dans son parcours, et voilà, rien de mieux que pour elle de finalement pouvoir aller travailler pour une boîte qui fait exactement le contraire de ce qu'elle faisait avant. Voilà. Et après, c'est les relations. Harry était ami avec elle depuis un certain temps. Et voilà, il y a eu un concours de circonstances et puis il y a des intérêts qui se sont alignés. Elle nous a rejoints pour nous aider. Ouais.
Techniquement, alors comment ça marche? Tu as parlé tout à l'heure de Mixnet. Est-ce qu'on peut essayer d'expliquer pour nos auditeurs d'un petit peu vulgariser ce que c'est que ce concept et ce qui va permettre d'apporter pour justement rendre les interactions inobservables et protéger la privacy dans les communications sur Internet?
Alors Nîmes, c'est avant tout ce qu'on appelle un mixnet, c'est un réseau d'ordinateurs. Voilà. C'est un réseau d'ordinateurs qui sont à travers le monde. Aujourd'hui, il y en a 5000 ordinateurs qui fonctionnent de concert. Et lorsque je veux utiliser Nîmes, en réalité, je vais envoyer une communication à quelqu'un qui est de l'autre côté de Nîmes. Voilà. Je vais envoyer ma communication, que ce soit un message tout simplement, je vais l'envoyer à travers le réseau Nîmes. Et c'est la manière dont le message circule dans le réseau qui fait que le message devient inobservable. Et pour ça, on applique plusieurs méthodes. C'est pour arriver à un degré d'anonymat. Première chose, c'est qu'on va couper tous les messages dans des paquets de la même taille. Donc en fait, c'est comme si tu prenais, au lieu d'avoir à la poste des enveloppes, des paquets de différentes tailles en fonction de ce qu'il y a dedans, en fait, tu découpes tout et tout à la même taille. Donc déjà, tu ne peux plus vraiment faire la différence entre est-ce que je regarde un fichier vidéo ou est-ce que j'envoie juste un petit message. Tu vois, c'est la même taille. Ensuite, on rajoute des faux paquets. C'est-à-dire qu'on mélange entre les vrais paquets, il y a 20%, 30% de faux paquets qui sont générés par le système. Donc, et chaque paquet va prendre un chemin différent. Ça veut dire que mon fichier vidéo, en fait, il va être coupé en 100 paquets et ces 100 paquets vont chacun prendre un chemin différent. Donc, si je contrôle même un des serveurs sur le chemin, je vais avoir qu'un petit bout. Et tout va être mélangé avec tous les utilisateurs. C'est-à-dire que moi, j'ai mes paquets, ils passent là-dedans, les tiens, ils sont mélangés. Et en plus, on va juste un petit peu les ralentir, on va mettre un petit peu de ce qu'on appelle de la latence. Ça veut dire que dans Internet, ce qui est important, c'est la vitesse de connexion, hein, la vitesse à laquelle les paquets y vont. On a toujours envie que ça aille le plus vite possible. Mais c'est aussi ce qui peut nous dénoncer. Parce que comme on sait que les paquets ils vont à la vitesse de la lumière, ben en fait, on peut savoir où est quelqu'un en fonction de la vitesse du paquet à laquelle le paquet arrive. Et donc, on va juste ralentir un petit peu de manière aléatoire tous les paquets, et ce qui fait qu'en fait, on ne peut plus savoir où géographiquement la personne est. Et en mélangeant tout ça, toutes ces méthodes-là, on arrive finalement à un système où on ne peut plus savoir qui envoie quoi à qui, et on ne peut pas savoir où est la personne. Les métadonnées disparaissent.
D'accord, et donc si je comprends bien également, par l'envoi de faux, on ne peut même pas être sûr quand on identifie un émetteur qu'il a réellement envoyé un message.
Exactement.
Donc ça rajoute une couche, ok, c'est assez intéressant. Par contre, moi j'ai une première question. Tu parles de latence, mais est-ce que ça veut dire que concrètement, pour un utilisateur, je ne peux pas le message va mettre beaucoup de temps à arriver. Donc, il y a quand même un certain nombre d'applications peut-être pour lesquelles ce n'est pas possible. Par exemple, des applications où la latence, je veux dire les jeux vidéo, par exemple, doit être courte. Ou...
Voilà. Alors, évidemment, quand on parle d'un peu de latence, c'est quelque chose qui est imperceptible. C'est-à-dire que si je fais de la messagerie, j'envoie des messages, je ne verrai pas la différence. Pour un jeu vidéo peut-être, mais est-ce que pour un jeu vidéo tu as besoin d'avoir le même degré d'anonymat que pour ta messagerie? Ça c'est une question, et je pense qu'au début on va d'abord se focaliser sur des usages où il y a vraiment besoin d'anonymat, c'est-à-dire la messagerie, les transactions de crypto-monnaie par exemple, ou certaines communications sécurisées entre certaines institutions. Là, ça c'est des endroits où on ne veut pas que les gens puissent voir à l'extérieur, mais un jeu vidéo au début ça passera pas forcément par Nîmes.
D'accord, non, mais c'est quand même, tu le dis, des latences qui seront assez minimes, c'est pas en minutes, c'est en secondes, en moins.
Mais oui, c'est des microsecondes. Oui.
En microsecondes, d'accord, ok.
Mais si je comprends bien, en fait c'est un réseau où on peut greffer des applications pour utiliser le réseau. Donc il faut un client pour accéder à ce réseau en fait.
Exactement. Ouais. Il faut un client pour accéder à ce réseau. Et donc nous, ce qu'on imagine, c'est que ce client, ceux qui te proposent une application, par exemple une messagerie, hein, tu prends une messagerie comme Telegram ou Signal, eux, ils auront intérêt à mettre un client au niveau de leur serveur. Ils vont se connecter à Nîmes. Et dans chacune des applications que tu vas télécharger sur ton téléphone, il y aura un micro-client Nîmes qui sera là. Et donc, l'utilisateur ne le verra pas. Toi, tu vas utiliser ton application Telegram ou Signal de la même manière. Mais en réalité, au lieu de passer par Internet de manière claire et directement te connecter au serveur de Telegram ou de Signal, ce qui veut dire que ton opérateur sait que tu utilises Telegram ou Signal à ce moment-là, il ne sait pas forcément ce que tu dis, mais il sait que tu fais ça, là, ça passerait par Nîmes. Et à ce moment-là, ton opérateur téléphonique ne sait plus à qui tu parles. Donc, la surveillance d'État imposée dans tous les pays ne fonctionne plus. Et puis, même si le serveur de l'opérateur de messagerie, Signal ou Telegram se faisait pirater ou la police débarquerait chez eux pour voir, ils n'auraient pas ton adresse IP.
Donc en clair, c'est quand même du B2B, j'ai envie de dire, que tu vises. C'est-à-dire qu'en premier lieu, ton idée est de convaincre des prestataires, par exemple des messageries qui ont un intérêt à, ou qui vendent, ou qui ont dans leur business model, qui peuvent mettre en avant auprès de leurs utilisateurs la confidentialité des messages en leur fournissant cette solution technique qui leur permet de
Voilà,
rassurer leurs clients.
exactement. C'est du B2B, mais ça va être quand même, c'est quand même accessible à tout développeur. Ça veut dire que ce qu'on vise comme première communauté, c'est la communauté des développeurs qui développent justement des applications où comme ça, il y a un client et un serveur. Et eux, ils pourront dire, ah ben écoutez, je rajoute Nim par-dessus. Comme ça, si vous utilisez mon application, voilà, on réduit le nombre de données. Qui transmettent entre l'application client et le serveur.
Vous n'avez pas l'intention de sortir un petit client maison ou des petites applications faites maison ici à Neuchâtel pour que tous les gens puissent essayer directement en fait un peu comme j'imagine un peu comme un VPN, c'est-à-dire tu l'actives
En
et tout
fait,
ton réseau devient anonymisé.
le VPN, c'est une application par-dessus. Alors, c'est quelque chose qu'on imagine, mais pour le VPN, ce qu'on va d'abord faire, c'est on va d'abord développer des petits outils pour que les développeurs puissent intégrer ça dans leurs propres outils. S'ils veulent faire un VPN, ils peuvent faire un VPN. Et donc là, on aura effectivement, je pense qu'il y aura pas mal de gens qui vont faire des services de VPN sur Nîmes. Et moi, je l'utilise déjà dans le testnet. Hein, c'est un use case qui fonctionne. Effectivement, j'ai une machine. Alors, ce n'est pas quelque chose de commercial, c'est juste moi qui m'amuse à faire ça. Mais j'ai une machine dans un data center avec un client Nîmes. Moi, j'ai mon client Nîmes sur mon ordinateur. Et en fait, je peux me connecter sur Internet par cette machine qui est dans ce data center, comme si j'étais sur un VPN, mais en passant par Nîmes. Donc, cette machine-là ne connaît pas ma véritable adresse IP. Ça, c'est intéressant.
Ce que je me pose comme question, c'est bon, il y a quand même un jeton, Nîmes. En fait, dans ce que tu nous as décrit, j'ai envie de dire, elle est où la blockchain? Parce que Mixnet étant une technologie, mais pas forcément blockchain. Donc, quel est le lien entre ton projet et la blockchain?
Alors, la blockchain, c'est le deuxième réseau. Il y a deux réseaux. Il y a le Mixnet qui va vraiment fournir le réseau de communication, le service. Voilà. Et à côté de ça, il y a une blockchain avec un jeton. Ce jeton-là va organiser en fait l'économie entre tous ceux qui mettent en place des ressources dans le Mixnet. C'est en fait comme une grosse coopérative où il y a plein de petits prestataires qui mettent des ressources, des serveurs. Et on s'organise autour d'une blockchain. Donc, quand tu veux accéder au réseau, tu dois payer. Tu dois payer en token que tu vas acheter en Bitcoin, en Ether, en ce que tu veux. Mais tu dois payer en token. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément l'utilisateur qui doit payer le token. Ça peut être payé par celui qui fournit le service de messagerie, par exemple, qui peut prépayer pour ses utilisateurs. Et donc, cette transaction-là, elle se fait sur la blockchain de Nîmes. Mais après, quand tu as payé, tu reçois un code d'accès qui est une preuve zero knowledge que tu as payé, qu'on ne peut pas associer à ton paiement, mais tu as une preuve que tu as payé. Et ça, là, cette preuve-là, elle t'ouvre les portes et elle te permet d'utiliser le réseau.
Donc en fait, tu vends de la bande passante sécurisée, quoi.
Exactement.
Ouais, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est sur une sorte de business model assez hybride qui n'est pas trop vu dans les cryptos, quoi. C'est-à-dire qu'on a un fonctionnement où finalement on a une sorte de. On a un funding qui se voit assez souvent dans les cryptos. Vous avez été fundé par des Wobby, enfin, j'ai noté des fonds comme ça qui sont assez connus dans le monde de la crypto. Et pourtant, à côté de ça, j'ai pas l'impression, alors corrige-moi si je me trompe, mais le token NIM, il n'a pas pour but ultime de se retrouver sur les échanges de crypto comme du Zcash, du je ne sais quoi. C'est pas un token qui a pour but après de se propager comme ça dans la nature ou si?
Alors, il va naturellement se propager parce que, en fait, ce qu'on va capturer comme valeur, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que pourquoi est-ce que ces gens investissent là? D'abord, parce qu'eux, ils voient tous un intérêt. Je veux dire, les échanges, ils ont un intérêt à réduire leur empreinte numérique. On a Kraken, on a Binance, on a Wobby, OKX qui sont partenaires. Donc la première chose, c'est que le token, il va prendre la valeur d'usage de ce réseau-là, c'est-à-dire combien coûte finalement un gigabit de données sécurisées par Nîmes. Ça, c'est ça qu'on va chercher à capturer dans le token. Pour ça, ce token-là, il a besoin de vivre. Il a besoin de vivre et donc il va forcément circuler sur des marchés. Il sera sur sa propre chaîne. ça c'est sûr, mais on utilise une chaîne Cosmos. Voilà, donc Cosmos, on utilise Tendermint dans l'environnement Cosmos. Donc il va y avoir un bridge, un pont entre les tokens sur cet univers Cosmos et Ether qui s'appelle le Gravity Bridge. Donc en fait, ce token, il va se retrouver peut-être ailleurs, mais il aura cette valeur d'usage qui est l'accès au réseau. Donc généralement, il va quand même se retrouver.
C'est un utility pur.
C'est un utility pur, mais comme on est dans la token économie, enfin comme on est dans la nouvelle économie, mais ce token là, il va pouvoir être intégré et quelqu'un qui voudra faire un fond pur crypto avec un basket de toutes sortes de tokens sur Ethereum, il pourra intégrer NIM dedans, par exemple.
Donc, il va être coté.
Okay.
La vocation va être cotée.
Donc, à un moment donné, ce sera tradable. Oui,
bien sûr. Ok. Oui.
D'accord.
On commence par un token qui sert en fait en interne, le temps, si je comprends bien, que le réseau se développe et tout ça, et de vous permettre aussi de voir que tout fonctionne bien et il sert de monnaie d'échange, si je comprends bien, à l'intérieur des gens qui sont dans le réseau NIM. Mais à terme, il sera libéré comme ça dans le marché libre.
C'est le principe d'un utility token. Un utility token, d'ailleurs, la FINMA le dit très bien, elle dit ça peut être utile, ça doit avoir une utilité, donc l'accès à un réseau, par exemple. Et ensuite, à l'intérieur de ce réseau-là, ça peut être utilisé pour payer. Comme moyen de paiement à l'intérieur du réseau, pas à l'extérieur. Donc c'est exactement ce qu'on fait.
Concrètement, j'ai essayé de savoir. Quelqu'un qui veut. Donc j'ai vu qu'on peut faire partie du réseau NIM, on peut faire tourner un nœud NIM. Et du coup, je veux savoir concrètement combien ça coûte d'acheter un nœud NIM. Donc combien de NIM il faut pour faire tourner un nœud NIM. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en termes d'investissement. Quel est le rendement éventuel que ça peut rapporter.
Alors ça, c'est encore très, très inconnu. Il y a beaucoup d'inconnus dans les questions que tu as posées. Mais ce qui est sûr, c'est que en fait, tu as trois types de nœuds qui sont importants dans le réseau NIM. Tu as les validateurs, c'est eux qui maintiennent la blockchain. Tu as les mix nodes, qui sont eux qui maintiennent le mixnet lui-même. Et puis, tu as les gateways, qui sont les portes d'entrée dans le réseau. Et ces trois acteurs-là, ils ont des caractéristiques différentes. Ces trois acteurs-là vont être rémunérés. Chacun va obtenir une part de ce que les gens payent pour le droit d'accès. Le gateway, c'est lui, c'est le plus intéressant, c'est le point d'entrée. Donc en fait, toute personne qui veut utiliser NIM doit être connectée à un gateway. Mais ce gateway, tu peux le faire tourner chez toi ou tu peux le faire tourner, ou tu peux utiliser un qui est publiquement disponible. C'est lui qui a la relation directe avec l'utilisateur, c'est lui qui va capter le plus de valeur. Voilà. Et donc là, on en veut au maximum, et on va les incentiver parce qu'ils vont capter, je pense, à peu près 40% de la valeur de la transaction. On pense qu'il y a les exigences techniques vont apparaître d'elles-mêmes, c'est-à-dire que l'ordinateur qui a le plus de bandes passantes, par exemple pour un mix node, naturellement, va mieux performer que quelqu'un qu'un autre qui n'a pas beaucoup de bandes passantes, et donc naturellement, il va gagner plus d'argent, et donc naturellement, il va prendre de la place sur le réseau et il va avoir une bonne réputation. Donc ça va pousser vers des machines qui sont à forte capacité en termes de réseau, pas en termes de puissance de calcul, par exemple, mais c'est vraiment du réseau. Pareil pour les validateurs.
Mais tu me remènes un peu vers la technique. Et moi, je reviens un petit peu
On revient sur l'argent. Alors, combien ça coûte? Écoute, pour l'instant, on ne sait pas trop. En gros, pour avoir un droit d'entrée, les investissements, ils sont quand même sur quelques dizaines de milliers de francs de tokens pour pouvoir les mettre, parce qu'il faut, ce qu'on appelle bonder. Il faut avoir des tokens à disposition pour les connecter pour connecter ces machines au réseau-là. Et ça va quand même coûter dans les quelques dizaines de milliers de francs au début pour un professionnel. Mais bon,
c'est possible, quelqu'un qui n'a pas de formation technique, quelqu'un qui est purement dans l'investissement, qui s'approche de vous pour participer à cette aventure, vous l'accueillez, vous l'aidez?
Oui, alors parce que lui, il a un autre choix, il a une autre option, c'est qu'il peut obtenir des jetons. Alors même, et ça, c'est tout le monde, même les gens qui vont acheter les jetons après au fur et à mesure, ils peuvent en avoir un petit paquet à côté. Et s'ils ne les utilisent pas, ils peuvent les déléguer sur les différentes machines, que ce soit les mix nodes, les validateurs. Ils peuvent choisir les machines de réputation. Ils disent, je vais aider telle machine à augmenter sa réputation. Et ils vont récupérer une partie des bénéfices engrangés par cette machine.
Est-ce qu'on peut expliquer simplement ce que ça va apporter? Parce qu'il y a quand même une idée de parenté, enfin de descendance avec Tor. Qu'est-ce que ça va apporter de différent et pourquoi il était nécessaire aujourd'hui de passer à autre chose que ce qu'avait pu proposer Tor à un moment donné.
Alors Tor permet aujourd'hui de faire de la navigation Internet. Tu peux naviguer sur Internet à travers Tor. Et ça permet que celui qui le site Internet sur lequel tu vas ne voit pas ton adresse IP. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça que ça permet. Et si en fait, mais en réalité, Tor est vulnérable à des attaques faites par des gros opérateurs, donc un gros État ou une grosse corporation ou un gros groupe criminel. Pour ça, ils utilisent des méthodes, et notamment des méthodes d'analyse du réseau et d'analyse à quoi ressemble finalement ton trafic. Ils vont regarder ton trafic et ils vont regarder le trafic qui rentre d'un côté du réseau et qui sort de l'autre côté du réseau. Et on peut faire des corrélations comme ça et retrouver qui parle avec qui. Et justement, grâce notamment avec l'analyse du temps de connexion, donc à quelle vitesse une connexion passe à travers le réseau, on arrive à faire ces corrélations. Et donc, on arrive à déanonymiser quelqu'un qui utilise Tor. Ça demande beaucoup de ressources, mais on l'a vu dans les news il y a quelques jours, un acteur inconnu qui, d'un coup, possédait plusieurs dizaines de pourcents du réseau Tor. Pourquoi il fait ça? Il fait ça justement pour désanonymiser certaines connexions. Donc NIM s'attaque à ça comme problème. C'est de résister à des observateurs qui, même s'ils détiennent 10% du réseau, 20%, 30%, 80% du réseau, ils n'arriveraient jamais à savoir qui parle avec qui. Parce que le réseau, il s'organise d'une manière où les métadonnées et les informations sur lesquelles ils peuvent utiliser ces techniques-là n'existent plus, en fait.
C'est une question à laquelle on vient assez rapidement. Aujourd'hui, là, on voit les volontés, par exemple, d'empêcher des grosses organisations, ça pourrait être des États, etc., de prendre le contrôle du système et le mettre en bas. Donc ça, on le comprend, mais est-ce que tu penses que quand même il y a une idée politique de fond à ton projet, celle qui rejoint aussi tes idéaux d'intégrité et de souveraineté numérique? J'ai envie de dire, est-ce que tu penses que les États vont laisser faire un tel projet?
Ils n'auront pas le choix. Alors, on parle de politique. Le truc fondamental qui lie la politique et le technique ici, c'est faut voir que Internet, ça a été construit de manière entièrement transparente. C'est-à-dire que quand tu communiques sur Internet, on sait qui parle avec qui. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les métadonnées, c'est l'adresse IP. Mais on ne peut pas construire de la vie privée ou des communications privées sur un système qui est transparent. On essaye de le faire, mais en réalité, c'est comme si tu discutes dans la rue avec quelqu'un. Cette conversation, elle a l'air privée, mais en réalité, tout le monde voit qu'on a cette discussion qui se passe. Donc, en fait,
Chiffrage ne suffit pas.
Chiffrage ne suffit pas, exactement. Le chiffrage est important, c'est une grosse partie, mais ça ne suffit pas. Et c'est là où le politique rejoint la technique. Hein, c'est que ça fait un changement fondamental de la manière dont on peut voir comment est-ce qu'on construit Internet. Et par exemple, si on va dans la logique du RGPD et la logique de la protection des données aujourd'hui en Europe, telle qu'on le fait en Europe, ben, ce qu'on va faire, on va chercher à réduire notre empreinte. Et donc, toute entreprise qui ne veut pas collecter de données pour justement ne pas avoir à respecter le RGPD qui est très, très, très...
C'est souvent plus compliqué pour les entreprises de sécuriser des données.
C'est plus compliqué de sécuriser des données que de finalement que de ne pas les stocker. Voilà. Ouais. Et ça, on est en train de voir ce shift en train de se faire actuellement. Et donc, lorsqu'ils vont utiliser NIM, ils n'auront plus de soucis. Ils pourront dire, nous, on fournit un service, on sait exactement ce que notre client nous donne à nous, on n'a pas d'autres données que ça. Donc, les gens vont adopter cette technologie-là par ce biais-là. Enfin, en tout cas, cette approche...
Alors, on comprend cette idée, c'est-à-dire qu'on sera conforme de fait avec la RGPD. Il n'y aura même pas besoin de se poser la question.
Exactement.
Ça peut être une approche intéressante pour un certain nombre de sociétés. En revanche, on sait qu'aujourd'hui, la data, justement celle que tu cherches à protéger, la data des citoyens, c'est une énorme économie. Aujourd'hui, c'est une économie qui pèse plusieurs centaines de milliards dans le monde, considérée comme une ressource importante par certaines industries. C'est même le modèle d'affaires de géants de la tech qui revendent et utilisent la data. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'aujourd'hui ton modèle, il est compatible avec la façon dont aujourd'hui tourne l'économie digitale?
Alors, je pense qu'on peut prendre un autre exemple. Alors, il est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais tu sais, on a eu on avait ce monde économique qui était basé sur les logiciels propriétaires. Aujourd'hui, on a un peu oublié finalement. Maintenant, tout est open source. L'infrastructure, une énorme, grosse partie de l'infrastructure des logiciels sont open source. Et on a fait ce shift entre un monde propriétaire vers un monde open source. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce shift-là? Ben, parce que finalement, si tu enlèves, finalement, dans le monde open source, les gens sont plus en contrôle et peuvent générer plus de valeur pour eux-mêmes. D'accord, tu n'as pas de taxes à payer à quelqu'un ou quoi que ce soit. Et donc, ce que je pense que dans le monde, dans un monde où il va y avoir ce combat, effectivement, qui est fondamental entre des entreprises qui utilisent les données personnelles comme source de revenus fondamentale et des entreprises qui vont tout faire pour ne pas en avoir, à un moment donné, les entreprises qui vont tout faire pour ne pas en avoir, je l'espère, elles auront un modèle d'affaires bien meilleur sur le service qu'elles rendent. Elles seront plus efficaces parce qu'elles n'auront pas toute cette sécurité complètement débile à mettre en place pour protéger les données personnelles, puisqu'elles n'en auront juste pas. Et finalement, peut-être qu'il y aura une réponse économique. Ces services-là rendront de meilleurs services, car plus simples, et surtout permettront à ceux qui les utilisent de conserver la valeur générés par leur propre usage à leur niveau, en fait. Tu vois, et pas d'avoir d'extraction de valeur qui est faite à travers les données personnelles.
Alors, je comprends ça, c'est tout à fait légitime. On sait qu'aujourd'hui, l'extraction de valeur via les données personnelles, elle est faite plus ou moins à l'insu des gens ou juste en signant des conditions générales, ma foi, une fois. Et puis
qu'on ne lit pas, en général.
Qu'on ne lit pas, ouais.
J'accepte.
Oui. Oui, voilà, des conditions générales qu'on ne lit pas, mais aujourd'hui, demain, mettons qu'on se passe de la vente de données, est-ce que ça pourrait amener les utilisateurs à devoir payer? Parce qu'à un moment donné, ce qui ne rentre pas d'une façon ne rentre pas dans l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, l'utilisateur moyen est prêt à payer un service Google ou un service Facebook? Aujourd'hui, il a finalement, en quelque sorte gratuit, du moins, il ne le sort pas de son compte bancaire.
Ouais, je pense que là, le shift aussi, il est en train de se faire. Les gens, justement avec l'adoption des moyens de paiement et notamment les crypto-monnaies, on se rend compte de plus en plus que le fait de payer pour utiliser des ressources sur Internet, ça a du sens. Tu ne payes pas forcément pour le logiciel, tu ne payes pas pour la communication elle-même, mais tu vas payer pour l'utilisation de ressources externes qui sont mis à disposition pour fournir un service spécial.
Je m'excuse, je vais faire un peu le rabat-joint, hein, ouais. Mais on n'a pas parlé du législateur. C'est-à-dire que moi, ce que je vois dans Nîmes, c'est finalement un protocole dont le fonctionnement est décentralisé, mais dont la structure est plutôt centralisée, qui ressemble plutôt à une start-up classique.
Ouais, je vais te couper, c'est que la start-up, l'entreprise elle-même qui crée le logiciel et qui crée le réseau, oui, elle est centralisée, mais dès qu'on va lancer dès que le réseau sera lancé, on se repose sur nous-mêmes, on va tourner aucun élément de l'infrastructure ou alors des éléments juste ridicules, l'infrastructure sera tout de suite prise en charge par notre communauté. Donc, si on veut faire après des changements de gouvernance dans ce mécanisme-là, ce sera à nous de convaincre notre communauté du bien fondé des changements. Donc, il y a quand même.
C'était ma question suivante. C'était la résilience.
Il y a quand même beaucoup. Oui, c'est-à-dire que si une fois que le projet est lancé, quelqu'un nous tombe sur la société Nîmes et nous désingue ici à Neuchâtel, le réseau Nîmes continuera de vivre. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de... Non, sur ce
coup-là... Parce que ça ne rend pas service à tout le monde. Moi, j'essaie de chercher des cas pratiques. J'aime bien, de toute façon, anticiper les scénarios pessimistes. J'adore ça, je faisais ça sur Bitcoin déjà. Mais par exemple, tu vois, aujourd'hui, un simple VPN, oui, tout le monde peut l'utiliser pour masquer ton IP, par exemple. Mais concrètement, tu peux pas te connecter à ta banque en ligne avec un VPN. Il va dire, mais qu'est-ce que vous faites depuis les Seychelles? Je vous ouvre pas la session, tu vois. C'est tout des petits trucs comme ça du quotidien. Et du coup, je me dis, OK, bon, demain, j'ai la possibilité, par un client Nîmes, d'anonymiser mon trafic. Voilà. Mais comment va réagir ma banque? Comment va réagir mes impôts? Comment va réagir, effectivement, les services de géolocalisation, par exemple, ce genre de choses?
Bah, moi, je pense que c'est la banque qui va mettre ça en place. Ça, c'est ça l'idéal, c'est ça qu'on recherche.
Une banque qui voudrait plus voir l'activité de ses clients?
Non, mais une banque qui n'a pas envie que ses concurrents sachent exactement combien de clients utilisent leur app mobile. Parce que ça, aujourd'hui, n'importe quel opérateur téléphonique peut savoir comment fonctionne, combien de clients à telle banque juste en observant le réseau. Donc en fait, l'empreinte numérique d'une banque aujourd'hui, elle est juste énorme. On voit tout ce qui se passe si on a les bons outils d'analyse. Donc ils ont intérêt à réduire cette empreinte-là pour leur propre protection et la protection de leurs clients. Ce qui n'empêche pas lorsqu'ils mettent en place une connexion NIM entre l'application de la banque et eux, ils peuvent très bien dire à l'application client, donne-moi ton adresse IP, donne-moi ta localisation, et si le client est d'accord, il va dire oui, je suis d'accord. Mais comme je disais tout à l'heure, une communication privée, c'est ce qu'on décide de révéler entre deux personnes qui sont sur quelque chose d'anonyme. Après, je peux révéler mon nom à travers NIM. Hein. Mm-hmm.
Tu révèles que ce que tu as envie de révéler.
Je peux révéler ce que je veux, donc je peux révéler beaucoup de choses. Je peux envoyer ma carte d'identité à travers NIM. Mais ce qui est important, ce qu'on ne cherche pas à protéger, c'est pas à couper le lien entre l'utilisateur et le service qu'il va utiliser. Là, au contraire, on essaye de faire un lien de confiance. Ce qu'on essaye de couper, c'est la possibilité à des tiers qui n'ont rien à voir
de surveiller.
À la transaction et à la communication de surveiller.
Oui, mais tu sais très bien qu'ils ont toujours des arguments. Tu vois, par exemple, Bitcoin, on sait aujourd'hui que la plupart des gens, que l'activité criminelle ou blanchiment d'argent est finalement très anecdotique sur Bitcoin. On sait très bien que ça passe beaucoup plus par des systèmes traditionnels d'optimisation fiscale et compagnie que réellement par du Bitcoin pour blanchir de l'argent. Et pourtant, c'est l'argument qu'utilisent tous les politiciens pour s'attaquer à Bitcoin. Donc si tu veux, quand bien même l'activité criminelle et tout ça serait hyper marginal, ça sera quand même l'argument utilisé pour empêcher que les choses se fassent en dehors de la surveillance. Moi, si je comprends bien, je peux utiliser le réseau NIM pour faire tourner mon nœud Bitcoin et faire mes transactions de Bitcoin de manière totalement anonyme.
Oui, tu peux, bien sûr, tu peux. Mais regarde, prends déjà ce qui se fait déjà sur le réseau Tor. Est-ce que tu sais que Facebook a un point d'accès Tor ? Hein ? Facebook a une adresse spéciale Tor pour permettre à des gens dans certains pays où Facebook est censuré de se connecter à Facebook à travers Tor. L'idée, c'est de passer la surveillance ou les blocages dans certains pays. Et pourtant, quand ils font ça, Facebook connaît très bien l'identité de la personne, parce que la personne, elle a peut-être mis son nom, elle a peut-être fait beaucoup, elle connaît son profil, son réseau d'amis sur Facebook. Donc, c'est pas parce que tu offres la possibilité de te connecter de manière à travers un réseau anonyme ou pseudo-anonyme comme Tor, pour passer des blocages ou éviter des surveillances, qu'il n'y a pas forcément une communication de confiance entre l'utilisateur et le service. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux révéler ton nom si tu veux. Voilà. Donc, il y en a qui vont l'utiliser dans ce cas-là, et puis il y en a d'autres qui l'utiliseront dans le cas, comme tu dis, où effectivement, bah, tiens, c'est cool, je vais avoir un nœud Bitcoin quelque part, où je vais me connecter, je vais envoyer ma transaction Bitcoin à un nœud qui est connecté à NIM via NIM, et comme ça, ce nœud va voir apparaître une transaction Bitcoin qui est valable, il va la transmettre sur le réseau, et effectivement, personne ne pourra essayer de savoir à quelle adresse IP est connectée cette transaction Bitcoin. Donc ce sont deux cas qui fonctionnent tout à fait avec NIM. NIM est assez est très basique parce que on choisit ce que l'on divulgue finalement à la personne avec qui on communique.
Donc ça c'est bien, on a compris qu'en fait on conservait donc le citoyen conserve la maîtrise sur les données qu'il transmet, ça lui empêche pas de les transmettre, ça lui donne la maîtrise. Mais il y a une question qu'on peut se poser quand même. On voit se dessiner une mouvance quand même à Neuchâtel, il y a Amir Taki et son projet DarkFi. Je veux dire, il y a ton projet, donc ce sont des projets on rappelle de finances anonymes, toi ton projet là qui se dessine, on est quand même dans un projet, vous êtes quand même des acteurs crypto blockchain. On a l'impression qu'il se dessine à Neuchâtel un projet qui est un petit peu à contre-courant de ce que cherche à faire toute une partie de la sphère blockchain et crypto, qui cherche aujourd'hui justement à rentrer dans le rang.
Oui, alors pour moi, c'est complètement assumé. Et je vais te dire, avec BT, je me bats aussi tous les jours pour conserver la possibilité aux gens d'acheter et vendre des bitcoins sans identification au maximum. Alors c'est des petits montants, hein, c'est jusqu'à 1000 francs, mais c'est important.
J'allais t'en parler parce que tu vois, avant c'était 5000. Et là, on n'est plus qu'à 1000. Donc, on voit bien que le sens de la réglementation va quand même vers plus de contrôle.
Le problème de cette réglementation, on le voit au niveau mondial. Les pays qui ont interdit le Bitcoin le plus fortement, et je pense notamment aux pays du Maghreb, c'est vraiment la zone économique large où il y a le plus d'interdictions. En fait, c'est là où il y a le plus de transferts peer-to-peer, c'est là de Bitcoin. Donc, le marché pair-à-pair entre les gens explose dans ces régions-là. Donc, en fait, en Suisse, il y a des contrôles, mais en réalité, beaucoup de gens utilisent des services financiers à l'étranger. C'est la réalité.
Je comprends. On est en plein dans la philosophie cyberpunk. C'est-à-dire, au final, on s'en fout. Nous, on fait un outil. Il fonctionnera quoi qu'il arrive.
Pourquoi est-ce que pour moi, c'est important ? C'est qu'en fait, au-delà de la pure philosophie cyberpunk, qui est effectivement la maîtrise de soi numériquement, il y a aussi cette révolution économique fondamentale qui est en train de se passer, qui est l'avènement de la comptabilité à triple entrée, par exemple. Enfin, c'est où en fait on est en train de redéfinir toutes les bases de nos interactions. Et en fait, le débat du KYC ou de l'identification et de la régulation dans ce domaine-là, c'est qu'on essaye de conserver une contrainte, enfin pas une contrainte, une règle qui a été inventée sur un autre système de valeurs pour justement corriger les défauts de cet ancien système de valeurs dans un nouveau système qui n'a pas les mêmes défauts. Et justement, qui corrige ces défauts, c'est-à-dire qui corrige des défauts de l'autre, dans le sens quand moi je fais une transaction en Bitcoin, je suis sûr qu'elle est faite. J'ai pas besoin d'avoir de la réconciliation, de l'audit qui soit fait sur est-ce que ma transaction a bien été envoyée à l'autre personne. C'est intrinsèque.
Je suis d'accord avec toi. On fait re-rentrer un régulateur dans un système qui n'en a pas besoin.
Exactement. Donc moi, je suis très ouvert à ce que si on trouve des réels problèmes. Qui ont besoin d'une forme de régulation ou d'organisation dans ce nouveau système, on va y travailler. Et je pense qu'on voit déjà des pistes qui apparaissent dans ce domaine-là. Mais je suis très attentif à ce que lorsque les... Surtout par rapport aux gens qui... eux-mêmes se mettent à faire de la blockchain et d'un coup dire « Ah, mais super, je vais faire de la blockchain compliant totalement à l'ancien système. » Pour moi, ça n'a pas de sens parce qu'on essaie de faire entrer un carré dans un rond. Et ça, voilà. Donc, c'est vrai que quand on a un environnement comme celui que tu décrivais sur Neuchâtel avec la DarkFi, avec Nîmes, avec le KYC-less et qu'on cherche à faire ça, on permet en fait d'imaginer ce monde qui est en train de se créer et d'avoir des principes qui restent solides. Et là, de là, on attire en fait finalement aussi beaucoup d'entreprises qui veulent faire des choses tout à fait normales, mais qui les font de manière réinventée, sans déconnecter de ces problématiques passées en fait. Et je pense que ça a une force et que dans le long terme, de toute façon, c'est l'innovation Bitcoin qui va gagner face à la régulation.
Ok, ben écoute, Alexis, on a bien compris l'intérêt de ton projet et puis le fait que tu reprends le flambeau, l'idéal cypherpunk au travers de Nîmes et puis aussi de la communauté qui est en train de se constituer à Neuchâtel. Donc, je pense que Kat et moi, on a été tous les deux très contents de te rencontrer ici. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Puis rendez-vous pour le prochain podcast bilan très bientôt. Au revoir.